Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, faut-il repenser le modèle de l'hôpital public ? La grève démarrée il y a 8 mois aux urgences de Saint-Antoine à Paris a débouché hier sur une mobilisation générale des soignants dans toute la France. Faute de secours, dénonce-t-il, l'hôpital public serait menacé de disparition. Ni la prime mensuelle de 100 euros versée depuis juillet, ni le pacte de refondation des urgences annoncé en septembre n'ont suffi à apaiser la colère des médecins, infirmiers et aides-soignants. Ils assistent impuissants à la suppression des lits et au manque d'effectifs, alors même que le nombre de patients, lui, ne cesse d'augmenter. Alors la réponse à la crise passera-t-elle par une simple hausse du budget de la santé ou faut-il refonder notre système de soins dans son ensemble ? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. À 14h50, on retrouvera la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Pour parler de l'agonie de l'hôpital public, trois invités autour de la table. Bonjour Nathalie De Castro.
Bonjour.
Vous êtes médecin hospitalier au service maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris et membre du collectif Interhôpitaux. Pour discuter avec vous, Frédéric Bizard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé, qui est un centre de recherche créé il y a 1 an et demi, centre qui vient de sortir un livre sous votre direction, Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand, paru aux éditions Fauve. Et enfin, Jean-Paul Demain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, membre des économistes atterrés et auteur d'une économie de la santé, paru en 2018 aux éditions Armand Collin. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Cette situation, elle n'a pas commencé il y a 1 mois, 6 mois ou 1 an. Et elle est le résultat d'années et d'années de mise sous tension qui ont fait peser sur l'hôpital l'essentiel de l'effort des maîtrises de dépenses de santé. Il faut donc pouvoir compléter ce qui a été annoncé, un véritable plan de transformation accéléré, un plan d'urgence qui réponde à ce mal-être beaucoup plus vite et de répondre très concrètement à l'urgence à laquelle nous faisons face. J'ai demandé au gouvernement, à la ministre de la Santé, de travailler avec vigueur pour un plan d'action renforcé et des décisions fortes qui seront annoncées par le Premier ministre au sortir du Conseil des ministres de mercredi prochain. Ces décisions redonneront des marges de manœuvre financières, plus de moyens, mais pas seulement. Nous devons investir et assumer d'investir plus fortement que nous n'avions au début envisagé de le faire, parce que la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée.
Emmanuel Macron en visite à Épernay dans la Marne hier. Nathalie De Castro, on va commencer avec vous. L'exécutif a enfin pris la mesure de la gravité de la crise que traverse l'hôpital public.
Je ne sais pas si le président de la République a pris la mesure. En tout cas, on est heureux d'entendre qu'il a entendu, puisque jusqu'à encore récemment, ce qu'on nous répondait, c'était que les problèmes de l'hôpital public n'étaient pas uniquement un problème de financement, mais un problème d'organisation. Donc oui, moi je me félicite qu'il semble avoir entendu. Maintenant, on attend des réponses concrètes. Je ne sais pas ce qui sera annoncé mercredi, mais en tout cas, on attend des réponses concrètes sur ce qu'on a... Sur ce qu'on a mis sur la table.
On aura plus de réponses mercredi, en effet, mais est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, Frédéric Bizard, qu'il y a un consensus politique aujourd'hui sur le manque de moyens dont souffre l'hôpital ?
Là, on assiste à un exercice de communication politique, de communication de crise, qui est plutôt réussi, hein, si je vous ai compris. Bon. Après, je vois pas très bien comment, en une semaine, dans en vase clos, la haute fonction publique qui pilote ce système, de mon point de vue, avec une mauvaise orientation depuis 20 ans, parce que il y a pas de hasard. D'abord, on peut pas dire qu'on découvre, qu'on avait sous-estimé, ça fait une vingtaine d'années qu'on voit le système un petit peu se décrépir, et il y a pas de hasard, c'est parce qu'on s'est trompé de direction. On y reviendra pendant l'élection. Donc, personnellement, je n'attends rien d'idées nouvelles de restructuration, et ça pose un problème. problème, parce que si on réinvestit massivement dans un système qui n'est pas restructuré pour être adapté au nouvel environnement, je crains malheureusement qu'on puisse peut-être éteindre l'incendie, le feu social pendant quelques mois, mais qu'on ne réglera rien sur le fond.
Alors Jean-Paul Demain, vous saluez plutôt la possibilité d'une hausse de financement pour l'hôpital public ?
Ah, une hausse du financement serait tout à fait souhaitable. Ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que l'hôpital souffre. L'hôpital souffre d'une crise de son financement. Les personnels souffrent. Ils sont ils travaillent dans des conditions de travail déplorables. Et c'est ça qu'il faut souligner. Et la grève qui a commencé il y a 8 mois n'est pas anodine. C'est une véritable crise en profondeur de l'hôpital. Et il faut dès aujourd'hui, s'interroger sur celle-ci.
Alors, ce qui cristallise le mécontentement, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, qui, le gouvernement l'a annoncé, ne progresserait en 2020 que de 2,3%. Ce budget a été vécu par de nombreux professionnels de santé, Nathalie de Castro, comme une provocation.
Le budget, il est inadapté depuis longtemps, si vous voulez. C'est pas tout à fait nouveau. C'est pas de cette année que on a découvert qu'il y avait un ONDAM et que on avait une enveloppe budgétaire qui était fermée depuis des années et des années.
Mais cette année, en effet, il y a eu la grève qui a commencé il y a 8 mois, la grève des urgences.
Disons que la nouveauté cette année, c'est que alors j'allais dire les revendications, c'est pas que les revendications, mais les mobilisations se sont rejointes. Ça fait des années qu'on est plusieurs à être mobilisés contre les différentes réformes qui ont été faites, notamment il y a 10 ans la loi HPST qui avait déjà changé le mode de fonctionnement de l'hôpital. D'autres professionnels et on l'a dit, les urgences sont mobilisées depuis plusieurs mois sur des revendications aussi assez spécifiques. On l'a vu hier dans le cortège, il y avait des chefs de service qui défilaient auprès d'aides-soignantes. Donc, si vous voulez, c'est plus le fait que tout le monde ait la sensation aujourd'hui d'être arrivé à l'os, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, qu'on a tous subi des contraintes depuis des années et des restructurations et des réorganisations, avec un sous-financement chronique, comme ça a été dit, qu'on a tenu le choc et qu'aujourd'hui, on ne tiendra plus le choc. Et c'est un peu ça qu'on veut dire. Et c'est un peu ça qui est le message principal et ce qui était dit hier dans les cortèges. On veut retrouver de l'humain à l'hôpital. On veut retrouver les moyens de travailler, tout simplement, pour retrouver le sens de ce qu'on fait. Parce que notre objectif, c'est de soigner des gens. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, dans le cortège hier, vous auriez demandé à beaucoup de gens et vous auriez dit « Mais moi, les questions de budget, je m'en fous. Moi, je veux juste qu'on me donne les moyens de m'occuper correctement de mes patients. » comme je dois le faire.
Mais pour bien comprendre ce sous-financement, Nathalie de Castro, peut-être qu'il faut mettre en comparaison cette hausse donc du budget de la santé de 2,3% avec la progression naturelle, dite naturelle, en 2020, donc qui serait de 4,4%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Paul Demain, ce que signifie cette idée d'une progression naturelle ? À quoi est-ce que ça renvoie ?
Alors, comme vous l'avez dit, depuis 1997, l'assurance maladie est contrainte par l'ONDAM. Alors cet ONDAM, il est voté chaque année par le Parlement, ce qui est une révolution à l'époque, puisque auparavant, le budget de la santé était défini par les partenaires sociaux au sein des caisses de sécurité sociale. Et donc la réforme de 97 est une forme de privatisation de la santé, santé qui passe des caisses vers le Parlement. Donc c'est un système plutôt beveridgien qui se met en place à l'époque.
Vous voulez dire. Oui, on pourrait davantage parler d'une étatisation.
Où voyez-vous la privatisation ?
Oui, étatisation, oui, tout à fait. Excusez-moi du lapsus. Donc, cette progression naturelle des dépenses d'assurance maladie, c'est une illusion entretenue par le politique. Il n'y a pas de progression, il y a simplement la satisfaction des besoins de santé de la population.
Justement, ce qu'on constate, Frédéric Bizard, c'est qu'avec le vieillissement de la population, on a des dépenses qui augmentent, des besoins qui augmentent.
Alors, d'abord, je rejoins tout à fait ce point qui est quand même central. Il faudra qu'on y revienne sur cette décision dans les années 90 d'étatiser le système, de passer plutôt à un modèle beveridgien, mais d'ailleurs sans vision. C'est quand même le nœud gordien de tout ce qui se passe.
On y reviendra. À quoi ça renvoie un modèle beveridgien ?
Je voudrais juste répondre sur le projet de loi de financement et cette question de l'ONDAM. C'est vrai que ce projet de loi de financement de 2020 est particulièrement maladroit. Pas qu'en santé. D'abord, l'État a mis en déficit la sécurité sociale, parce que d'ailleurs, il y a une part d'étatisation où l'État décide finalement s'il compense le manque à gagner de la sécurité sociale parce qu'on prend des mesures. Là, c'était les gilets jaunes, mais ça peut être d'autres mesures favorables à la consommation ou à l'investissement. Bon. Donc, ça, c'est une première perte d'autonomie qui est assez contestable ou tout du moins qui remet en cause le modèle français. Pourquoi pas? Mais il faut que ça soit quand même une proposition et un débat qui fasse suite à un vrai débat démocratique. Donc, perte d'autonomie de l'assurance maladie. La deuxième chose, c'est que donc on a mis en déficit la sécurité sociale pour continuer une forme de politique de rigueur pour les retraites. Hein, on a désindexé les retraites, 0,3% au lieu de 1%. C'est pas rien, hein, parce que quand on est retraité, c'est la majorité de ses revenus viennent de ses pensions. Donc, c'est quelque chose de très impactant. Et puis, en effet, on a continué une politique de rigueur qu'on mène depuis une dizaine d'années sur la santé. Le problème, c'est comment est-ce qu'on maîtrise les dépenses? Parce que les pouvoirs publics s'enorgueillissent de maîtriser les dépenses. Depuis 10 ans, on a respecté les dépenses de ce qu'on appelle de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. C'est magnifique. On maîtrise les dépenses. Mais comment le fait-on? On le fait par la baisse des prix. La baisse des prix sur les produits de santé, mais aussi la baisse des prix sur les salaires. Il faut savoir qu'à l'hôpital, plus de 60% des coûts sont des coûts salariaux. Bon, donc en gros, on a épuisé le personnel soignant depuis une dizaine d'années. Faut bien voir que le personnel paramédical, on parle beaucoup des médecins, mais le personnel paramédical, qui est donc par définition moins bien payé, ressent encore avec beaucoup plus de vigueur cette rigueur salariale.
Pour répondre à cet objectif de l'ONDAM.
Donc on a épuisé le personnel salarial et on n'a pas modernisé l'outil hospitalier malgré ce pléthore de ressources technologiques qu'on peut avoir.
Alors, on va faire circuler la parole, Frédéric Bizard, Nathalie de Castro. Vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, je ne suis pas trop d'accord sur l'absence de modernisation. Si vous voulez, le discours sur la réorganisation, il me heurte un peu parce que, si vous voulez, il y a un discours ambiant qui est de dire l'hôpital ne sait pas s'organiser, l'hôpital est obsolète, on n'est pas en phase avec l'évolution de la société. Mais rien n'est plus faux. On passe notre temps à s'organiser. On a absorbé toutes les réformes récentes qui ont impacté l'hôpital. Donc il y a eu la loi HPST, je l'ai dit tout à l'heure. Avant ça, il y avait eu la RTT qui a impacté le temps de travail des soignants et des médecins. À l'époque, ce qui avait été évalué, je parle des médecins puisque je vais parler de mon cas, mais on avait estimé que 25% de temps médical, que c'était 25% de temps médical en moins. Ce temps médical n'a pas été compensé. On a absorbé la réforme de l'internat, des études de médecine, qui fait que les internes sont moins à l'hôpital qu'il y a 15 ans.
On a énormément de mesures,
il y a eu beaucoup de changements. On a changé, enfin aujourd'hui le soigner un patient aujourd'hui ou des hospitalisations aujourd'hui sont beaucoup plus courtes. Ça veut dire que les patients sortent plus tôt. Donc tout ça a été pris en compte. On a fait le virage ambulatoire. On a fait la fameuse révolution numérique sans moyens d'ailleurs. Donc avec parfois des outils qui n'étaient pas à la hauteur.
Mais justement, est-ce qu'il faut considérer que c'est l'hôpital public qui a supporté la majorité de cette nécessité de réduire les dépenses de santé? Nathalie Castro et Jean-Paul Demain.
Moi, forcément, je vais vous donner ma vision qui peut paraître biaisée, mais oui, on a absorbé beaucoup. Et d'ailleurs, les urgences, et c'est bien pour ça que les urgences ont bougé, le nombre de passages aux urgences a doublé, le personnel a en effet augmenté, mais pas en adéquation avec les besoins.
Jean-Paul Demain.
C'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, le nombre de passages aux urgences a doublé. L'hôpital... Pour les pouvoirs publics, il est plus facile de taper sur l'hôpital que sur la médecine générale. Parce que politiquement, c'est extrêmement risqué. On l'a vu avec la réforme il y a quelques années.
La médecine libérale.
De la médecine libérale, tout à fait. Donc c'est extrêmement difficile de réformer la médecine libérale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réforme l'hôpital et depuis les années 90, l'hôpital est le lieu d'expérimentation du ce qu'on appelle le nouveau management public. Et ce nouveau management public qui passe par le développement des conseils de pôle, donc une logique qui est une logique managériale qui repose sur la contractation des dépenses.
Et on voit bien aujourd'hui qu'effectivement c'est l'hôpital public plus que la médecine de ville qui est censé davantage supporter des économies pour ce budget 2020, Frédéric Bizard.
Factuellement, c'est pas comme ça. D'abord, c'est beaucoup plus courant pour les politiques et beaucoup plus facile pour les politiques de s'en prendre à la médecine médecine de ville qui est moins organisée, moins structurée qu'à l'hôpital public qui est très structuré. Donc c'est pas le, je pense pas que ça soit la question. Il y a eu
mais
d'abord
même Emmanuel Macron l'a reconnu que c'était l'hôpital public qui avait davantage supporté ces réductions de dépenses de la santé.
Je peux pas dire le contraire maintenant. Mais si vous regardez factuellement, mais l'hôpital a
mais pris vous n'êtes pas d'accord
part,
avec cela.
A pris sa part. Non mais l'hôpital a pris sa part comme la médecine de ville. Enfin, je vous rappelle que la consultation elle est à 25 euros hein, chez un médecin généraliste. Vous n'avez pas un autre pays développé dans le monde qui a un tarif de consultation chez le médecin généraliste qui ne peut plus vivre dans des villes comme Paris. Donc la paupérisation des professionnels
c'est bien,
de santé,
la
paupérisation des professionnels de santé, elle est loin d'être qu'à l'hôpital. Première chose, on ne réformera pas l'hôpital sans réformer l'ensemble du système de santé. Les enjeux sont en fait bien plus extra-hospitaliers qu'intra-hospitaliers. Les enjeux, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire de passer du soin à la santé. C'est-à-dire de considérer que le maintien en bonne santé est un objectif aussi stratégique que le curatif. D'accord. Le maintien en bonne santé, c'est globalement extra-hospitalier. Le deuxième enjeu, c'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on passe de pathologies aiguës, d'un risque court, à des pathologies chroniques, d'un risque long. Donc, il faut organiser les parcours des soins chroniques. Les parcours des patients chroniques, c'est majoritairement extra-hospitalier. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi... mercredi prochain, pour être un peu convaincu, il faut un changement de cap. Je reviendrai après, je vais laisser la parole sur la chose. Pourquoi est-ce que je ne pense pas que... Bien sûr que l'hôpital a subi des chocs, mais pas les bons chocs. Il y a eu 3 poignards de l'État dans le dos de l'hôpital public. Il n'y a pas de hasard si l'hôpital est sur les genoux aujourd'hui. On pourra y revenir. Donc, bien sûr qu'elle a subi des transformations, mais pas les bonnes transformations.
Jean-Paul Demain.
Oui, je suis assez... Je partage pas votre avis en fait. Je trouve que l'argument du vieillissement, du rôle du vieillissement dans le développement des dépenses de santé est un argument qui statistiquement
est complètement fallacieux. Hein. Stratégiquement.
Vous l'avez pensé quand même. Donc moi je pense que
et en même temps, est-ce que 4,4%, donc on parlait de cette progression naturelle, c'est quelque chose de soutenable? On a du mal à imaginer avec les objectifs de réduction de la dette que l'on pourrait, que ces 4,4% d'augmentation du budget de la santé seraient souhaitables, Jean-Paul Demain.
Mais pourquoi diminuer la dépense de santé?
Pour participer à l'effort budgétaire. Est-ce que ça...
Oui, mais derrière la santé, c'est une population en bonne santé, c'est une force de travail qui produit plus, et une force de travail qui est remboursée de ses dépenses maladie, elle peut consommer ailleurs.
Bon, on peut augmenter les dépenses de santé, est-ce que pour autant il faut les augmenter à hauteur de 4,4%?
Il n'y a pas de limite, en la matière. Je vous vois rigoler, monsieur. La dépense doit être contrainte. Mais la limite de 4% peut être largement dépassée.
Frédéric Bizard.
Non, moi je fais partie de ceux, et là-dessus on se rejoindra, où je pense qu'il faut investir massivement dans ce secteur-là. Pourquoi ? Pas simplement pour sauver l'hôpital public, il faut évidemment sauver, mais pour sauver, il faut aussi le transformer. Là, il faut discuter de quoi on le transforme. Bon, parce que le choc sur l'extérieur, il est absolument massif. Comme il y a un choc tous les 50, 70 ans, il faut le gérer. Mais pourquoi est-ce qu'il faut ? Et en effet, on peut revenir à Keynes, mais on peut revenir à 100 ans en arrière. C'est un plan Freycinet en santé. C'est-à-dire que la santé représente aujourd'hui un peu une convergence de toutes les évolutions technologiques qu'on peut avoir, que ça soit l'évolution numérique, les biotechnologies. Vous avez toutes les grandes ruptures technologiques impactent le secteur de la santé. Donc, si vous investissez massivement et si vous faites le bon investissement, parce que vous le savez bien, c'est une question de qualité d'investissement qui compte, vous allez avoir un rôle d'entraînement, en effet, sur la croissance économique et vous allez désendetter à la fois l'hôpital, mais vous allez désendetter le pays. Donc, en effet, on est à une phase où la santé représente, c'est pas le seul secteur, mais vraiment un secteur sur lequel il faut investir.
Nathalie de Castro, vous parliez tout à l'heure de cette remise en question du fonctionnement de l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des efforts à faire en termes d'efficacité? Nicolas Revel, le directeur général de l'assurance maladie, par exemple, dit que cette hausse des coûts est aussi liée à la redondance des actes, à la surprescription, au parcours de soins qui est parfois mal organisé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, peut-être qu'il y a des actes qui sont pas pertinents, peut-être que les soins sont mal organisés, mais encore une fois, je pense qu'on part dans une discussion qui est placée dans un registre qui va heurter tous les soignants. Je veux dire, ok, on peut dire que la santé est un marché et que on va pouvoir l'utiliser pour dégager de la croissance économique, etc. Bien sûr. Si vous voulez, ma question et mon problème, c'est d'alerter les citoyens pour leur dire que ce qui est en train de se passer, c'est en train de se passer sans leur avis. Donc la vraie question, c'est à quoi ça sert le système de santé ? Donc vous parliez de l'augmentation des dépenses de 4,4%, mais ça c'est juste pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir payer l'innovation thérapeutique, pour pouvoir payer le coût des médicaments. Donc est-ce qu'il faut que ça augmente ? Je ne sais pas, demandez aux Anglais s'ils sont contents que le coût d'une vie soit évalué à 40 000 euros. Donc on peut le faire, on peut dire qu'on ne dialysera pas les gens après 75 ans, on peut décider qu'on ne donnera pas des traitements anticancéreux qui coûtent 800 000 euros pour allonger la durée de vie de 4 mois, mais à ce moment-là, il faut demander aux citoyens leur avis.
En l'occurrence, vous avez été entendu par le Sénat, le collectif Interhôpitaux a été reçu hier par le Sénat, ça c'est quelque chose d'assez inédit, le Sénat qui a retoqué le budget de la santé hier.
Alors, les sénateurs, en tout cas, ont dit qu'ils ne pouvaient pas voter un budget puisqu'on annonçait que le budget allait changer. Je pense que c'était plutôt ça leur argument. Oui, on est content d'avoir été entendu et c'était un peu aussi l'objectif de la mobilisation qui était d'alerter sur le financement au moment où le financement se discutait. C'était d'alerter la population mais aussi les élus et de dire attention, ce que vous faites a des conséquences sur ce que nous on fait tous les jours et sur la façon dont on vous soigne en fait.
Sur cette question de la hausse des moyens qui n'est peut-être pas suffisante et qui devrait peut-être passer aussi par davantage d'efficacité, Jean-Paul Demain, est-ce que vous pensez qu'on peut faire des économies d'échelle et des gains de compétitivité ?
Mais des économies, on peut toujours faire des économies, hein, ça c'est. Mais il y a de bonnes économies et de mauvaises économies. Et les économies qui ont été faites à l'hôpital sont de mauvaises économies, puisqu'on tape dans la dépense sans vraiment en voir les conséquences.
Frédéric Bizard.
Oui, juste sur. Non, cet argument, il est limite fallacieux. La ministre l'utilise souvent, et pas mal d'acteurs l'utilisent, c'est-à-dire de dire il y a 30% d'actes non pertinents. Donc en fait, on rejette la responsabilité de la situation sur les professionnels de santé. D'abord, tout ça repose sur du sable. Les données de l'OCDE parlent de 20% en mettant tout dedans, les fraudes et tout ça. Et qui est le premier responsable de ce manque de pertinence ? Qui est le premier responsable ? Quand vous faites des analyses à Paris le lundi et que vous êtes à Nice le mercredi, où vous devez refaire toutes vos analyses parce qu'on a tellement bien numérisé le système de santé qu'en fait, les médecins de Nice n'ont pas accès à votre dossier quand vous êtes à Paris. C'est la responsabilité de qui, ça ? Bien sûr que c'est de la responsabilité de l'État qui, depuis 20 ans, a dépensé plus d'un milliard d'euros et sans réussir à vraiment numériser le... Donc ça tient pas la route. Je voudrais juste revenir deux secondes sur ces trois coups de poignard dont je parlais tout à l'heure. Il y a 2002, le passage aux 35 heures à masse salariale équivalente. C'est-à-dire qu'on a réduit la durée de travail, soi-disant, mais sans en fait compenser, si vous voulez, dans un organisme qui est à ressources humaines très intensives, qui est ouvert 24 heures sur 24, finalement, sans compenser, évidemment, les ressources humaines manquantes par rapport à ça. Donc on a augmenté la tension sociale, on a dit qu'on allait payer des RTT, mais évidemment on n'a pas réussi à le faire. Donc on a mis une première tension. Deuxième coup de poignard, 2009. 2009, on a dit un seul chef, une seule tête qui dépasse, l'administratif. Donc en fait, on a totalement démonétisé, on a enlevé tout pouvoir aux professionnels de santé pour mener à bien l'organisation de l'hôpital. Je ne dis pas que les professionnels de santé doivent être les seuls détenteurs du pouvoir à l'hôpital, mais il est évident que c'est un équilibre des pouvoirs qu'il faut. Et ça, on le ressent. Troisième coup de poignard, 2015, on a créé des groupements hospitaliers de territoire. C'est-à-dire qu'on a dit on ne va plus piloter les hôpitaux dans les hôpitaux, on va les piloter à l'extérieur, parce que ça permet de mutualiser, on va pouvoir... Et donc, on a encore, si vous voulez, enlevé un pouvoir de décision aux soignants. Et on a finalisé avec Mme Buzyn qui a dit maintenant, on va mettre une CME, c'est-à-dire une commission médicale d'établissement dans CGHT. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un hôpital, maintenant, vous décidez d'absolument plus rien, ni l'investissement, ni les ressources humaines, ni le pouvoir médical.
Cette évolution de la gouvernance des hôpitaux, Nathalie Castro, c'est aussi ce qui contribue au manque d'attractivité de ces hôpitaux, le fait qu'on ait de plus en plus de mal à recruter.
Non, je crois pas directement. Enfin, je sais pas répondre très précisément. Disons que l'empilement de couches administratives et l'éloignement des lieux de décision de ceux qui font le travail, oui, participent aux difficultés. Parce que si
ça crée une perte de sens.
Bah, si vous voulez, quand vous dites que vous n'arrivez pas à travailler dans des conditions correctes et adaptées, et que vous le dites une fois, deux fois, trois fois, et que vous avez l'impression que ça bloque au-dessus et que personne ne l'entend, et que en échange, quand vous discutez avec des directeurs, ils vous disent « mais non, j'étais pas au courant ou on m'avait pas dit que ». Donc clairement, l'éloignement des lieux de décision, ça ne peut que, on va dire, augmenter le ressenti négatif des professionnels. Maintenant, encore une fois, je crois pas qu'on peut expliquer tous les problèmes actuels sur une problématique soit d'organisation, soit de gouvernance. Bien sûr, la gouvernance et le fait d'avoir éloigné et de ne pas intégrer les soignants en général, quand je dis les soignants, c'est tous les personnels de l'hôpital et les usagers de l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est leur demande? Parce que je rappelle, on parlait de la pertinence des soins. Enfin, je rappelle quand même qu'en France, vous avez le droit d'aller voir le médecin que vous voulez, où vous voulez. Donc, on peut dire que c'est pas pertinent, mais après tout, c'est quand même bien vous qui décidez de ce qui vous semble pertinent pour vous. Donc on peut toujours essayer de limiter ça, mais il va bien falloir demander aux gens s'ils sont d'accord pour qu'on limite ça.
Frédéric Bizard a en tout cas soulevé un certain nombre de points sur lesquels on va revenir pour essayer de voir quelles sont les origines des maux actuels de l'hôpital public et quelles sont les réponses qu'on peut apporter. On en parle dans un instant. Beds, The Holy Motors and the Crackers sur France Culture. Entendez-vous l'écho? Nathalie de Castro, Frédéric Bizard et Jean-Paul Demain sont toujours avec nous pour parler de la crise de l'hôpital public. Alors, on a beaucoup entendu que la crise actuelle était liée à la tarification à l'activité, la fameuse T2A lancée en 2003. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette fameuse T2A, et quelle est sa part de responsabilité dans la crise, selon vous, Jean-Paul Demain?
Alors, la T2A est un mécanisme inventé par des économistes américain, et ce mécanisme est un mécanisme dit incitatif. En d'autres termes, l'assurance maladie rembourse à l'hôpital un séjour. Alors ce séjour, aujourd'hui il y a 2600 séjours, donc 2600 GHS, groupe homogène de séjour. L'idée en fait est d'inciter l'hôpital à réduire ses dépenses et donc à augmenter sa productivité.
Et ça passe potentiellement par un choix des hôpitaux, des activités, des actes à pratiquer, Nathalie de Castro ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si l'idée des... Enfin, je ne veux pas être spécialiste de la T2A, mais je crois que l'idée des personnes qui l'ont inventée, c'était de dire on met l'argent là où il y a de l'activité, donc c'est forcément vertueux. Pour certaines activités, c'est tout à fait adapté. Si vous devez faire, une opération pour l'appendicite, c'est quelque chose d'assez standard. On peut imaginer que le coût et la durée d'hospitalisation sont relativement homogènes et qu'il n'y aura pas tellement de problèmes. Le problème, c'est quand vous rentrez dans des pathologies très compliquées, avec des patients qui ont des pathologies multiples. Typiquement, on parle toujours de la personne âgée, mais il n'y a pas que la personne âgée. Vous prenez une personne qui a le cancer. Une personne qui a le cancer va avoir des problèmes liés à ses traitements. Il y a au départ le diagnostic, il y a le traitement. Donc si vous voulez, si vous prenez uniquement en compte le fait qu'une personne qui a le cancer, c'est une personne qui reçoit de la chimiothérapie et qu'une séance de chimiothérapie, ça vaut tant, bon ok, c'est très bien, mais derrière, cette séance de chimiothérapie, elle va donner des nausées, elle va donner des vomissements, les personnes vont être fatiguées, elles vont revenir à l'hôpital. Et ce séjour-là, combien ça coûte ?
Donc il faudrait limiter la T2A, selon vous, c'est ce qu'avait promis par exemple Emmanuel Macron, plafonner à 50% la part de la T2A dans le financement.
Très sincèrement, je ne crois pas qu'on reviendra sur la T2A. Ça fait 10 ans, enfin depuis 2012, qu'on nous dit qu'on reviendra sur la T2A. Il y a eu je ne sais pas combien de commissions, je ne sais pas. Donc je ne crois pas qu'on reviendra totalement sur la T2A. Il restera toujours de la T2A. La vraie question, c'est comment, quel que soit le mode de financement, si on reste dans une enveloppe fermée, et l'ONDAM est une enveloppe fermée, on recréera exactement le même problème. Donc c'est plutôt ça la question. Donc comment on fait en sorte, et après on peut rentrer, on pourrait avoir des débats pendant des journées entières pour savoir quel est le meilleur mode de financement, on n'en sait absolument rien.
Enveloppe fermée mais qui reste un objectif, donc qui peut être dépassé en ce qui concerne l'ONDAM. Frédéric Bizard.
Oui, alors cette question des modes de paiement, c'est probablement la plus complexe, mais on peut la simplifier. D'abord, il n'y a pas de mode de paiement parfait. Il y a des modes de paiement qui sont adaptés, plus ou moins bien, en fonction des activités. Je crois qu'on est tous d'accord ici, et c'est assez général, que la tarification à l'activité, le paiement à l'acte en général, est le moins mauvais des modes de paiement pour les actes standards.
Alors Jean-Paul Debord n'est pas d'accord, on va tout de même vous laisser développer.
Le moins mauvais pour les actes standards. Pour une raison simple, quand même c'est que c'est celui qui garantit qu'il n'y ait pas de sélection de patients. D'accord, quel que soit le type de patient, quelle que soit la chose, à partir du moment où vous avez une tarification à l'acte et pas au forfait, vous ne sélectionnez pas vos patients, ça c'est plutôt reconnu. Tarification à l'acte, alors au-delà de ce qui a été expliqué, la base de la tarification à l'acte, c'est une tarification par le jeu de la concurrence, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un des coûts moyens entre les établissements, vous avez une échelle de coûts nationale entre les établissements, et l'idée c'est que finalement, les établissements qui sont les plus performants pour un type d'activité continuent cette activité, alors que les autres qui sont moins performants plutôt se concentrent sur des activités sur lesquelles ils sont plus performants.
Mais au contraire, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait une sélection des malades selon l'intérêt de la pathologie, selon qu'elle était plus ou moins coûteuse, Jean-Paul Domain.
On connaît tout à fait les effets pervers liés à la T2A. Le premier effet, c'est en effet un mécanisme de sélection des risques. Pourquoi ? L'hôpital est rémunéré à prix fixe, donc il a intérêt à mettre dans le GHS un malade dont on sait qu'il va coûter moins cher.
Donc dans ce groupement,
exactement,
faut rappeler le GHS.
Dans ce groupement, il a intérêt à mettre un malade dont on sait qu'il va coûter moins cher. Deuxième effet pervers, le malade, il est renvoyé au plus vite de l'hôpital, c'est le développement de l'ambulatoire, et l'État participe à ce développement de l'ambulatoire en survalorisant les GHS liés à l'ambulatoire. Donc c'est un dispositif d'incitation. Et enfin, avant-dernier problème, c'est le problème de la sélection des meilleures spécialités, c'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à garder des spécialités dont on sait qu'elles sont coûteuses. Il vaut mieux avoir un service d'orthopédie, c'est beaucoup plus facilement rentable. Et enfin, dernier problème qui là porte complètement sur les soignants, c'est une incitation au développement de la productivité qui entraîne des effets pervers sur la qualité du travail.
C'est une façon de créer une forme de concurrence tout de même, Frédéric Bizard.
Non, mais c'est basé sur le plan de la théorie économique, c'est basé sur la concurrence entre les coûts. On trouve ça bien, on trouve ça pas bien, encore une fois, c'est la question. Mais non, je suis désolé, il y a des GHS en fonction des comorbidités. Il n'y a pas un seul GHS, quel que soit le malade. Donc le système. Mais le problème, c'est que vous voyez la complexité du problème. Et qu'on n'est toujours pas réussi aujourd'hui, il est vrai, à avoir un système qui soit performant, puisqu'on a baissé le niveau des actes, la valorisation des actes, de façon bien trop importante quand on voit l'état financier des hôpitaux aujourd'hui. Alors on peut toujours dire, après, c'est le problème du personnel qui est pas assez productif, mais tout ça ne tient pas beaucoup la route. Donc ça a été mal appliqué. Le problème, c'est que pour les actes courants, je pense qu'on n'en sortira pas parce que on n'est pas les seuls. On n'a pas de meilleurs moyens pour le prendre en compte, mais on va sortir de la T2A sur les actes qui n'ont rien à voir avec qui n'ont pas à avoir la T2A comme mode de paiement.
Autre dimension mise en responsabilité dans cette crise des hôpitaux, on en parlait tout à l'heure. C'est évidemment la question de l'austérité budgétaire, mais alors la conséquence que ça a eu depuis un certain nombre d'années, Nathalie de Castro, c'est que la dette des hôpitaux publics s'élève aujourd'hui à 30 milliards d'euros. et c'est une dette qui empêche dans une certaine mesure peut-être les hôpitaux d'investir dans des secteurs qui seraient nécessaires, je pense au retard dans le virage numérique, aux bâtiments qui se dégradent, Jean-Paul Demain.
La dette, c'est la conséquence directe de la mise en place de la T2A et donc du sous-financement hospitalier, c'est rien d'autre.
Oui, ça, on est d'accord. Cette dette résulte directement d'une insuffisance de valorisation des actes qui fait que vous mettez les hôpitaux en déficit. Vous avez une accumulation des déficits et la dette est passée de 6 milliards à 30 milliards. Hein, donc, encore une fois, là aussi, c'est quelque part l'État, parce que c'est l'État qui décide. Hein, si le système est assez particulier, autant on a une assurance maladie qui est le payeur, mais c'est en fait l'État, via une agence qu'on appelle la TIH, qui décide de la valeur des actes. Mais je voudrais quand même revenir sur une chose, parce que c'est l'objet du débat. Nous, ça fait 18 mois qu'on débat avec des sensibilités très différentes au sein de l'Institut Santé, c'est que je pense qu'on sous-estime, et Madame de Castro à côté, qui je vois bien où on veut en arriver, c'est qu'une question, donnez-nous des moyens et ça sera bon. Non, je voudrais dire ça là-dessus, il faut être convaincu que non. D'abord parce qu'il y a des erreurs de fait. Les erreurs, on peut y revenir. Les erreurs qui sont toujours là, les erreurs de gouvernance des hôpitaux, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et puis, il y a surtout tout ce qu'il faut faire pour adapter l'hôpital au nouveau, j'en prendrai juste un. L'hôpital repose sur les ordonnances de 1958 de Monsieur Debré, qui à cette époque avait concentré l'essentiel des ressources et des activités dans l'hôpital. Soins d'excellence, recherche et enseignement. Malheureusement ou pas, je ne sais pas si c'est malheureux, mais ça c'est terminé, il faut ouvrir les murs de l'hôpital. Il faut passer d'un service public hospitalier à un service public territorial. Il faut passer de l'offre aux besoins.
Alors avant de venir aux solutions, parce qu'il y a quand même cette question, vous dites qu'il faut investir davantage, mais justement, est-ce que cette dette n'est pas quelque chose qui empêche les hôpitaux d'investir? Et est-ce que Bercy aurait dû reprendre cette dette? C'est ce que certains ont dit.
C'est vrai pour l'ensemble, un peu de macroéconomie, c'est vrai pour l'ensemble. Comment on se désendette aujourd'hui? La France, il y a 2300 milliards. Comment on se désendette? Est-ce qu'on se désendette avec une politique de rigueur ou est-ce qu'on se désendette avec une politique d'investissement? Je rappelle qu'il y a une surabondance d'épargne dans notre pays. D'accord? Donc, et qu'il y a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, je pense que quelles que soient ces sensibilités, on peut être d'accord, qu'il faut investir massivement dans les activités à fort retour aujourd'hui. Et encore une fois, la santé, dont l'hôpital, fait partie de ces activités à fort retour sur investissement.
Jean-Paul, demain, sur cette dette que Bercy a exclu de reprendre, alors que ça aurait peut-être pu constituer une solution, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est en effet une solution, c'est-à-dire passer l'éponge sur la dette, et en même temps, revoir en profondeur le mode de financement hospitalier dont on a vu tout à l'heure qu'il n'était pas totalement optimal.
Nathalie Castro.
Oui, non, je voulais juste répondre sur le fait, parce que c'est un reproche qu'on nous fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Non, mais c'est quelque chose qui revient souvent. C'est, la ministre l'a dit avant, enfin beaucoup le disent, tout ne sera pas résolu parce qu'on vous donnera de l'argent. On le sait. On sait que tout doit changer, que tout le système doit être remis d'équerre et qu'on doit évoluer et que la transition épidémiologique est là, la transition démographique est là. Tout ça, on le sait. Juste, nous, ce qu'on vous dit, c'est que si on veut faire quoi que ce soit du système de santé et en particulier de l'hôpital, il faut déjà commencer par nous redonner de l'oxygène. Je vous rappelle quand même que dans un service d'hospitalisation aujourd'hui, vous avez une infirmière pour 15 malades. Vous voudriez être hospitalisé là, vous?
Mais c'est ça, l'argent permettrait au moins peut-être d'un côté de mieux pourvoir les postes qui ne sont pas pourvus et aussi peut-être d'éviter la fuite des personnels soignants vers le privé qui s'accélère.
Là, c'est engagé une spirale infernale, c'est-à-dire qu'on a dit pendant des années, faites attention, on est ric-rac. Faites attention, on nous demande d'augmenter l'activité à moyen constant. On va dans le mur, on va pas y arriver. On y est. C'était peut-être une prophétie autoréalisatrice, je sais pas. En tout cas, on y est. Et aujourd'hui, les jeunes, ils nous disent oulala, nous, on veut pas venir là. Hier soir, à l'Assemblée Générale du collectif Interhôpitaux, il y a un jeune étudiant qui était en cinquième année de médecine qui nous a dit, avant, vous nous appreniez la médecine. Aujourd'hui, vous nous apprenez la résilience. Vous croyez qu'on était content d'entendre ça? Non. Donc, il faut sortir de ça.
Mais ça, je suis d'accord qu'il faut quelque part un choc psychologique et qui, d'abord, je vois pas très bien pourquoi 2020, ça serait 2,3% et 2019, c'était 2,5%. Très honnêtement, par rapport à l'environnement, aux besoins, tout ça n'est pas très justifié. Donc c'est, encore une fois, c'est pas très habile. Donc je suis d'accord avec ce besoin de redonner de l'énergie. Deuxièmement, regardez les urgences. Les urgences, depuis 2012, qu'on a appliqué le principe de proportionnalité. On a dit il y a 4 à 5% de plus de passages aux urgences tous les ans. On va augmenter le financement de 4 à 5% de façon proportionnelle. proportionnel. Est-ce que véritablement les services des urgences ont trouvé que ça donnait ces ressources supplémentaires?
Non, parce que parallèlement, la médecine de ville a été désertée.
Non, il y a toujours 4 à 5. On a gardé la même proportion de. Mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre juste que cette perte d'attractivité, elle est en partie liée à un manque de ressources. Mais d'ailleurs, quand on parle de conditions de travail, on parle pas que de salaire, on parle de son environnement, de cette paupérisation qu'on a environnée. Donc vous voyez que c'est de l'investissement, ça, c'est pas simplement des moyens supplémentaires. Dernier point, je pense que la méthode pour réussir cette transformation, la méthode est absolument essentielle. On a fait un peu ce qu'on faisait dans le vieux monde avec les urgences, c'est qu'on a commandité un rapport auprès d'un parlementaire et puis d'un médecin, et puis le 15e rapport depuis 10 ans, par les mêmes en plus, il y en a un qui en avait déjà écrit 5, et puis on a fait croire que prendre des mesures nouvelles dans 2 mois après. Bon, ça je crois que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et en effet, je pense que pour transformer le système, prendre en compte ces différentes transitions ou pas, il faut avoir un vrai travail collectif, un vrai travail d'intelligence collective, parce que on les connaît les solutions, et dernier point, la société civile elle est prête. Globalement, parce que vous savez, on entend beaucoup des parlementaires, oh oui, mais les professionnels de santé, ils bloquent. Non, il n'y en a qu'un seul qui bloque aujourd'hui, c'est l'État.
Nathalie de Castro.
Non, je voulais juste faire une remarque sur l'histoire des salaires. Tout n'est pas une question de salaire, c'est évident, et on l'a déjà un peu évoqué. On connaît aujourd'hui une perte de sens parmi beaucoup de personnels de l'hôpital public, et donc c'est pas qu'une question de salaire. On choisit de travailler à l'hôpital public pour des raisons très spécifiques. C'est très difficile de choisir d'en partir. Et quand on discute avec des gens qui en partent, c'est toujours d'abord une décision assez longue à prendre et assez difficile, y compris pour des médecins. Mais juste, une augmentation de salaire, même si elle peut paraître minime, on est dans une société comme ça, c'est juste montrer de la reconnaissance envers des personnes. Donc si aujourd'hui, une aide-soignante qui gagne 1 400 € par mois, vous lui dites, on vous augmente à 1 700, Enfin, c'est juste lui donner de l'importance et la mettre en avant. Et or, on ne peut pas, enfin, je rappelle, l'hôpital ne pourra pas fonctionner sans aide-soignante.
Et ça éviterait aussi la fuite des personnels soignants vers le privé. Comme je le disais, Jean-Paul Demain, c'est un phénomène qui s'accélère. On voit de plus en plus de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants qui privilégient le privé, alors même que peut-être leur idéal consistait à aller travailler dans le public.
Depuis des années, il y a une dégradation des conditions de travail à l'hôpital. Ça, on arrive à le mesurer grâce à l'enquête emploi de l'INSEE. Il y a une dégradation des conditions de travail qui se manifeste par des contraintes de rythme. Et ces contraintes de rythme alimentent chez les personnels un sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail. Et ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de qualité empêché. Et ce sentiment de qualité empêché, il est mortifère pour le système hospitalier. C'est paradoxal, mais l'hôpital est inhospitalier. Il est inhospitalier pour les malades et pour les personnels. Et c'est pour cette raison qu'il faut que cela change.
Alors, par quelle solution ça passe? Est-ce que ça passe notamment par une meilleure organisation de la médecine libérale pour limiter, par exemple, les passages aux urgences, Frédéric Bizard?
Ça passe par une transformation globale. Je vais revenir, mais juste sur le plan des salaires, il faut bien voir que... Encore une fois, il ne faut pas minimiser les erreurs qui ont été faites. Le personnel soignant est la victime de l'incurie politique depuis des années. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on va maintenir le point d'indice fixe pendant des années, c'est-à-dire en fait faire perdre du pouvoir d'achat à un personnel soignant, et c'est des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des conditions qui sont plutôt difficiles au travail, et puis pour certains dans leur environnement. Comment est-ce qu'on pouvait penser que tout d'un coup ça n'allait pas céder? Donc ce qui est demandé est un rattrapage, sauf qu'évidemment ce gouvernement il doit quelque part corriger les erreurs des autres. La seule chose encore une fois c'est de reconnaître. C'est-à-dire se reconnaître qu'il faut changer de cap, parce que non seulement il faut rattraper ce qui n'a pas été donné, mais il faut quand même promettre que demain, on va quand même indexer les salaires, au moins au coût de la vie, et évidemment mieux si possible. Alors, en effet, on a parlé de la transformation, il faut un peu faire tomber les murs de l'hôpital, parce qu'aujourd'hui, il faut raisonner à partir du territoire, parce que justement, il y a un vieillissement de la population qui fait que vous devez vous occuper aussi des biens portants, mais des professionnels de santé. Il y a des parcours de soins, des patients chroniques, qui font qu'il faut en fait s'occuper non pas d'un soin ponctuel, mais il faut s'occuper de tout un parcours. Bon, qui doit faire ça? Aujourd'hui, on prétend que c'est l'administration, les agences régionales de santé qui vont structurer tout ça. Ça, j'y crois pas un instant, parce qu'elles ont montré au sein sein de l'hôpital. Et c'est pas une question de personnes. Il y a des personnes très bien dans l'administration. Mais c'est que tout simplement, ce sont les soignants qui ont cette capacité à s'organiser. Et enfin, on a la chance de vivre une révolution technologique qui nous produit plein d'innovations. Mais il faut aussi de l'innovation organisationnelle au quotidien. Qui les apporte ? C'est à partir du terrain. Donc il faut structurer, nous sommes favorables au sein de l'Institut Santé, de parler de territoires de santé, mais de les définir. Pas simplement de dire on va partir des territoires. On les définit par la loi et on met l'ensemble des professionnels de santé. On a proposé une organisation par collège. Enfin, bon, bref,
ça alors justement, je voudrais faire réagir Nathalie Castro à ces propositions et notamment à celle d'en finir avec cette séparation entre public et privé d'un côté et puis libéral et salarié de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie de Castro ?
Moi, sincèrement, enfin, je sais pas, enfin, je crois pas qu'on ait aujourd'hui la preuve qu'un système est meilleur que l'autre. Donc, j'aimerais bien qu'on me démontre que le système privé est meilleur que le système public.
Tu vas pas
le faire, hein. Non, mais je veux dire juste, voilà. Donc, pour moi, la question, elle est encore une fois de définir ce qu'on a à faire, ce que les professionnels de santé doivent faire en ville, à l'hôpital, qui doit le faire. Comment on s'organise en effet, parce que ça va pas être simple. On nous reproche l'hospitalocentrisme, enfin le système a été construit comme ça. Donc je veux dire, c'est maintenant très facile d'aller dire c'est la faute de l'hôpital, mais enfin le système a été fait comme ça parce que on avait avant une médecine de ville exclusive. Certes, l'épidémiologie et la démographie étaient différentes, donc on n'avait pas tout à fait les mêmes défis à adresser.
Parce que ça pose aussi la question des déserts médicaux aujourd'hui, du développement donc, de la médecine de ville.
Donc la question de savoir comment, qui paye et comment on arrive, moi encore une fois, je crois que ce qu'il faut redéfinir, et en effet avec les professionnels, c'est qui fait quoi, comment, quelles sont nos missions, qu'est-ce qu'on attend de nous. Moi, si on me dit que demain, je ne dois plus faire ci ou ça, moi, si on me dit que demain, la moyenne d'hospitalisation dans mon service doit être 3 jours, je mettrai les gens dehors au bout de 3 jours, il n'y a pas de problème. Mais qu'on me le dise et qu'on me l'explique, et que ce ne soit pas à moi de décider de comment je dois tenir les clous et comment je dois rester dans les clous intenables.
Jean-Paul Demain, sur peut-être cette réorganisation de la médecine libérale pour limiter les passages aux urgences et peut-être expliquer pourquoi, effectivement, les patients ont commencé dans les années 2000 à déserter cette médecine de ville.
Eh bien, un service d'urgence, il est ouvert 24 heures sur 24. Un service d'urgence, il soigne jour et nuit.
Il faut préciser qu'en 2003, le ministre de la Santé a décidé de rendre caduque l'obligation de la permanence des soins et qui repose à partir de ce moment-là sur le volontariat.
Tout à fait, non mais...
Donc ça, c'est une date un petit peu clé.
La question des déserts médicaux que vous avez évoqué tout à l'heure, cette question est en effet centrale. Et... cette augmentation de la distance d'accès aux soins, elle est criante pour certains patients qui ont qui doivent faire des kilomètres pour aller se faire soigner. Donc on ne pourra pas faire l'économie d'une réforme de la médecine libérale, et cette réforme de la médecine libérale, elle doit accompagner la réforme de la médecine hospitalière.
Frédéric Bizard.
Oui, en fait, vous retrouvez les causes communes hein, dans le problème d'attractivité à la fois en ville, exercice libéral, ou à l'hôpital, exercice salarié, fonction publique. C'est-à-dire, en gros, cette suradministration, cette perte de sens, cette perte de contrôle, vous la retrouvez exactement en ville. Il y a des problèmes de territoire qui s'ajoutent à ça, puisqu'en fait, on forme les internes, principalement dans les CHU, encore aujourd'hui, beaucoup, même s'il y a deux semestres qui se font. Mais enfin, et donc, quand vous avez 25 ans, aller dans des territoires où c'est difficile pour le conjoint de trouver, bon, vous avez tous ces aspects-là qu'on connaît, donc qu'on peut régler, là aussi, en mettant des internes davantage. Mais après, il faut savoir comment on fait tourner les hôpitaux, parce qu'on voit bien que les internes sont importants. Donc, vous voyez, c'est tout ça auquel il faut réfléchir. Mais il y a toujours des solutions. Madame de Castro a soulevé un point important, qui est la question des statuts. On entend une petite musique actuellement, c'est la Fédération hospitalière de France qui a dit, finalement, si on changeait les statuts, si on permettait à l'hôpital public d'être un hôpital privé à but non lucratif, si on faisait qu'un seul statut... Alors, nous avons réfléchi à ça et nous ne pensons pas que ça soit du tout. D'abord, la théorie économique est très claire, vous le savez, c'est que c'est pas une question de statut, c'est une question de régulation. Mais c'est quand même assez étonnant de penser que la fonction publique aujourd'hui ne pourrait plus remplir le service public comme avant parce qu'il y aurait des rigidités trop importantes et qu'on pourrait plus faire.
Et vous pensez qu'une privatisation pourrait être une solution?
Ah non, mais non, absolument pas. C'est aucune solution. Vous n'avancez à rien. Par contre, il faut repenser cette régulation de la fonction publique, il faut repenser ce que Madame Castro n'aime pas, mais c'est plus la gouvernance que l'organisation. Laissons les professionnels s'organiser sur la chose. Mais c'est vrai que la gouvernance, il faut la repenser pour réarmer l'hôpital public de la même façon que l'exercice libéral. S'il est bien régulé, et là il y a des choses à faire, peut très bien remplir une fonction de service public en ville comme il l'a fait depuis 70 ans.
Sur cette question du statut, Nathalie de Castro, peut-être plus de flexibilité dans la possibilité d'être libéral à l'hôpital.
Alors, il y a déjà des possibilités d'exercer du libéral à l'hôpital et ça n'a résolu ni le problème des rémunérations ni le problème d'organisation de l'hôpital. On peut même, enfin, c'est une question qu'on pose souvent, notamment à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui est de savoir quel est l'impact de l'exercice libéral à l'hôpital. C'est très difficile à mesurer, c'est très difficile de savoir exactement. Et, par exemple, quel est l'impact de cet exercice sur l'accès aux soins? Est-ce qu'il n'y a pas deux filières qui se créent? Quel est l'impact sur l'organisation des blocs opératoires? Parce que quand vous ne pouvez pas annuler un bloc opératoire privé, mais que vous annulez l'urgence du soir, ça, c'est quand même problématique. Mais je ne veux pas rentrer dans... C'est des questions très délicates, parce que les médecins sont très attachés à cette liberté. Ce que je constate, c'est que ça n'a pas enrayé la fuite des médecins de l'hôpital public. Donc ça n'est c'est pas qu'une question de rémunération, c'est certes une question d'organisation, on peut pas le nier, mais je crois que aujourd'hui les statuts, en tout cas pour les médecins, permettent aux médecins d'avoir une assez grande liberté dans leur façon d'exercer la médecine. Ce qui leur manque, c'est les moyens de le faire et de le faire en accord avec le serment d'Hippocrate qu'ils ont déclaré, qu'ils ont lu le jour de leur thèse de médecine.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être, les uns et les autres, sur les remèdes à administrer aujourd'hui à l'hôpital public. On commence avec vous, Jean-Paul Domain.
Eh bien, pourquoi ne pas parler d'un Grenelle de la santé, un véritable Grenelle de la santé, autour de l'hôpital, une réforme de l'hôpital et une réforme de la médecine libérale, avec des obligations pour chacun.
Frédéric Bizard.
Oui, ben nous l'avons organisé depuis 18 mois. On est convaincu qu'on allait arriver à ça. Mais vous savez, la réforme globale de la santé, ça se fait toujours, et ça c'est vrai dans tous les pays, sur une logique accidentelle. C'est tellement compliqué et jugé comme étant risqué politiquement que malheureusement, il faut qu'il y ait soit une crise sociale, soit que véritablement que les gouvernants n'aient pas le choix. Je pense qu'on arrive à maturité. Et donc, je pense qu'il faut que la société civile aille le plus loin possible dans un consensus que serait un programme de refondation. Parce que malheureusement, la haute fonction publique et encore moins le personnel politique n'a de solution.
Nathalie de Castro, quelques jours avant donc les annonces d'Emmanuel Macron, dont vous espérez peut-être qu'elles seront à la hauteur des enjeux.
Oui, j'espère qu'elles seront à la hauteur des enjeux. Moi, je crois qu'il faut... j'ai pas de solution miracle, j'aimerais bien en avoir une. Ça passe par le financement quand même, ça passe par une reconnaissance des personnels, je l'ai dit, et il faut associer l'ensemble des personnels et l'ensemble des citoyens et les usagers à la réflexion et éventuellement dans le cadre d'un Grenelle. En effet, ça fait partie des demandes qu'on fait également, mais de façon à faire les choses dans le bon sens, c'est-à-dire d'abord se poser la question de ce qu'on a à faire, quel est notre rôle et en particulier quel est le rôle de l'hôpital, et ensuite de voir comment on mettra le financement en face.
Eh bien, un grand merci à tous les trois, Nathalie de Castro, Frédéric Bizard et Jean-Paul Domain, d'avoir participé à ce débat. On attend donc les annonces, alors qui seront faites par le Premier ministre Édouard Philippe mercredi prochain à l'issue du Conseil des ministres. Et pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin, je rappelle vos ouvrages, Frédéric Bizard, et alors la réforme globale de la santé, c'est pour quand, paru aux éditions Fauve. Et Jean-Paul Domain, économie de la santé, publié chez Armand Collin. On mettra évidemment toutes les références sur le site. Un grand merci à tous.
Avec Philippe Batifoulier et Nicolas Da Silva.
Et c'est l'heure de retrouver notre partenaire d'Alternative Économique. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Et vous avez souhaité revenir aujourd'hui sur la question allemande.
Et oui, il y a 30 ans, la chute du mur avait permis la réunification de l'Allemagne, puis l'élargissement de l'Union européenne. Cela avait fait de ce pays le leader incontesté de l'Union. Un statut encore renforcé par son succès dans la crise de 2008. Du coup, nos voisins ont joué depuis 10 ans un rôle central pour imposer partout des politiques budgétaires restrictives et des politiques du marché du travail déflationnistes, aggravant et prolongeant ainsi la crise de la zone euro. C'est ce qui a nourri l'euroscepticisme et les populismes. Mais depuis 2 ans, l'économie allemande cale et semble entrer dans une profonde crise structurelle.
Et pourtant, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont pas de chômage et qu'ils ont des excédents extérieurs et budgétaires qui restent importants, Guillaume.
Certes, mais on n'est probablement qu'au début d'une période de stagnation prolongée chez nos voisins. L'économie allemande a été tirée, en effet, principalement par deux moteurs ces dernières années, l'industrie automobile et les biens d'équipement. Or, ils sont à l'arrêt tous les deux et devraient le rester. Le marché automobile mondial a cessé de progresser du fait, en particulier, du ralentissement chinois sous l'impact de la guerre commerciale avec les États-Unis. Les exportations de grosses berlines allemandes vers les États-Unis sont menacées par des sanctions. L'image des marques allemandes a pris un sale coup avec le Dieselgate et les firmes allemandes sont très en retard en matière de véhicules électriques et autonomes. Plus largement, la lutte contre le changement climatique devrait, il faut l'espérer, pénaliser en particulier le type de véhicules que produit aujourd'hui l'industrie allemande. En matière de biens d'équipement, le boom de l'industrialisation de la Chine et plus largement des pays émergents est terminé, et d'autres acteurs, notamment chinois, se mettent aussi à exporter les machines moins chères que les allemandes. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à cette spécialisation déclinante. L'Allemagne n'est pas bien placée, en particulier sur l'économie de l'immatériel. Par ailleurs, l'austérité que l'Allemagne s'est appliquée à elle-même depuis 20 ans a profondément dégradé ses infrastructures collectives. L'économie allemande a déjà connu des coups de mou prolongés et elle a su faire preuve de résilience, mais cette fois, cela semble vraiment sérieux.
Et alors, quelles conséquences est-ce que cela peut avoir pour l'Europe, mais aussi pour la France ?
Déterminante, bien sûr. Nos voisins peuvent déduire de leurs difficultés actuelles qu'il leur faut absolument se serrer davantage encore la ceinture, abaisser encore le coût de leur travail, relancer une nouvelle vague de réformes Schröder. Dans ce cas, ils ne peuvent qu'aggraver leurs problèmes, et donc les nôtres et ceux de l'Europe. Ils peuvent, soit ils en déduisent au contraire que le moment est venu de rompre avec les dogmes auxquels ils ont adhéré jusque-là, qu'il faut d'urgence doter l'Allemagne et l'Europe d'une politique industrielle, qu'il faut moderniser les infrastructures collectives, matérielles et immatérielles du pays et du continent, qu'il faut investir massivement et s'endetter pour cela dans une transition écologique rapide et ambitieuse. Et dans ce cas, nous avons une chance de nous en sortir ensemble. Bonne nouvelle, pour l'instant, la balance penche plutôt vers la seconde option dans le débat public allemand, même si cette évolution reste encore fragile et limitée.
Merci beaucoup Guillaume. Et la une d'Alternatives économiques ce mois-ci ?
Ce mois-ci, nous titrons sur le logement, qui gagne, qui perd. Donc nous regardons les évolutions des prix, les évolutions des politiques publiques dans ce domaine, les évolutions en particulier en ce qui concerne le logement social.
Eh bien super, on lira ça de près. Merci beaucoup Guillaume et on se retrouve dans deux semaines. Such a simple word, just do. It's harder when it's you. Try to find a solution. Through such a simple fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Conversation running through my mind. See my reflection as someone I dislike. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say. I'm out of touch. I'm out of touch. I'm out of sync with you. I'm out of touch. Out of Touch du groupe Cut. La semaine prochaine, c'est la guerre et l'onde de choc économique qu'elle provoque. Nous examinerons la théorie des cycles économiques. Peut-elle intégrer un tel bouleversement dans ses analyses ? On posera la question lundi à Christian Schmitt et Fanny Coulon. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter notre série sur les fonds d'investissement. Toutes nos émissions sont disponibles sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.